Bonjour à tous, nous sommes à la radio Occitanie Première, une émission produite par Christian Moreto. Aujourd'hui, donc à la technique, comme toujours Jean-Loup Arzac, l'émission est « Si demain » avec un indicatif signé Damien Moreto. Aujourd'hui, lundi, c'est là au micro. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans le studio, on attend en fait un invité, Rémi Demersman-Pradel, directeur de la publication de journal toulousain. Nous sommes dans le studio avec Frédéric Lizac, directeur de Plume de Carotte. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Merci d'être passé nous voir en ce début d'année. Donc, ma première question est très simple, de faire juste un rappel pour nos auditeurs. Dans quelles circonstances les éditions Plume de Carotte sont-elles apparues ?
Oh là là, ça ne nous rajeunit pas, puisque c'était il y a presque 17 ans. J'ai créé cette maison d'édition donc en 2001, au printemps 2001. Le 21 mars même, notre premier livre est sorti. J'avoue que ce n'était pas fait exprès, mais ça me plaisait bien de sortir le jour du printemps, notre tout premier livre. Et en fait, le point de départ de cette aventure éditoriale, c'était vraiment une envie personnelle. Je crois qu'il y a beaucoup de maisons d'édition, quand il ne s'agit pas de grands groupes, mais de petites maisons d'édition qui se créent par des passionnés qui ont envie de porter quelque chose et surtout qui ont envie de le transmettre. À travers le livre. Le livre, pour moi, a ses atouts extraordinaires d'être un objet qui peut se multiplier facilement. C'est un objet industriel. C'est pas une représentation un soir comme un spectacle de théâtre ou des choses comme ça. C'est effectivement, on va en tirer 2000, 3000, 5000 ou même plus, on l'espère toujours, et qui vont aller dans autant de mains, voire circuler. Et c'est un objet pérenne, à l'inverse du journal, du magazine, qu'on peut garder dans sa bibliothèque, qu'on peut ressortir, qu'on peut prêter. Et je trouve que le livre papier, on parle bien du livre papier, a ce potentiel extraordinaire de transmission de culture, d'émotion, de connaissance. Moi, mon dada, mon domaine, c'était la nature et plus particulièrement même le rapport qu'on peut entretenir avec la nature, avec notre environnement. Qu'on soit enfant, qu'on soit adulte, qu'on soit plus âgé, qu'importe. Je sais que on vient de la nature, même si ça remonte à plus de 3 millions d'années. mais faut pas oublier que j'aime bien cette idée sur que l'histoire humaine, c'est à peu près un peu plus de 3 millions d'années. Vous enlevez 10 000 ans sur ces 3 millions d'années, et vous êtes sur des humains ou des préhumains chasseurs-cueilleurs. Donc en rapport avec la nature, sans aucun problème. Il y a 10 000 ans, un petit peu moins, il y a l'agriculture qui naît. Donc effectivement, on est agriculteur. Et il y a à peine peut-être 50 ans, on n'est plus agriculteur, on est urbain. Donc sur une échelle de temps de 3 millions d'années, ça fait que 50 ans qu'on est urbain. C'est pas possible qu'on oublie ce rapport à la nature qui nous a été nécessaire. Voilà le point de départ de Plume de Carotte.
Donc aujourd'hui, les grands domaines couverts par les éditions Plume de Carotte, c'est la nature.
Alors c'est plus précisément les relations homme-nature. Alors qu'est-ce que ça veut dire, relations homme-nature ? Ça semble un peu complexe, mais c'est tout simple. C'est raconter le fait que la nature nous nourrit. Parce qu'on a beau, encore une fois, être dans une civilisation urbaine et industrielle, jusqu'à preuve du contraire, les animaux, les fruits, les légumes, tous les produits viennent de la nature, toutes les boissons viennent de la nature. La nature, elle nous soigne, même si aujourd'hui, il y a une industrie pharmaceutique, il ne faut pas oublier non plus que plus de 50% des médicaments encore aujourd'hui sur le marché ont des molécules naturelles, végétales pour la plupart. La nature, elle nous vêtit. Quand on a du coton, quand on a du lin, quand on a de la laine sur soi, ça vient de la nature. Tout ça, c'est utilitaire, mais la nature, c'est aussi l'art. Il y a le land art, notamment, qui s'inspire, qui va créer dans la nature avec la nature, mais il y a toute l'inspiration littéraire de tous les grands écrivains, même actuels, comme des gens comme Jim Harrison, comme Marguerite Yourcenar a écrit des pages admirables sur la nature, etc. etc. La nature, elle nous fait rêver aussi parce qu'elle est pleine de jeux, elle est pleine d'émotions. C'est aussi notre histoire quand on parle, quand on parle de ce qu'on a dans notre assiette, par exemple. On parle d'histoire et de géographie. Si on prend la tomate, tout bêtement, la tomate, jusqu'au début du XVIe siècle, elle n'existait pas dans nos assiettes européennes puisqu'elle vient d'Amérique. Ouais. Donc derrière, il y a l'histoire de colons qui vont là-bas, à commencer par le premier, Christophe Colomb, justement, et qui ramène... Voilà, c'est toutes ces histoires humaines qui sont liées aux ressources naturelles, aux éléments naturels, qui m'intéressent de raconter, de mettre en scène, de mettre en forme, à travers, après, du livre qui, encore une fois, peut être de l'album pour enfants, peut être des écrits littéraires, peut être du documentaire. Voilà. Parce que je pense qu'on a un besoin profond de se reconnecter avec la nature. Je pense qu'il y a un vrai manque. On ne peut pas vivre sans la nature. Moi, j'en suis aujourd'hui convaincu. Et là-dessus, on a tendance un peu à l'oublier. Parce que c'est vrai que c'est bien quand même dans une maison chauffée, éclairée. Je ne suis absolument pas un passéiste. Mais il n'empêche que oublier tous ces liens qu'on a avec la nature me semble... au minimum dommage, au pire dommageable, surtout si on l'oublie après carrément aux dépens de la nature en la pillant sans plus rien considérer. Quoi.
Oui, d'ailleurs, je rappelle à nos auditeurs que vers 17h30, Jean-Loup, on va écouter une interview avec Marie-Monique Robin sur son dernier documentaire Roundup face à ses juges. Donc, Christian Moreto a interviewé Marie-Monique Robin. Donc, vers 17h30, on va écouter en fait cette interview en direct. Aujourd'hui, Frédéric, je voulais faire un petit peu en fait un pas en arrière. Je voulais connaître un petit peu. Ça serait intéressant pour moi parce qu'en fait, on a échangé il y a longtemps.
Il y a déjà quelques années.
Les grandes étapes qui ont marqué le développement des éditions en Plume de Carotte. Ça serait intéressant pour nos auditeurs aussi.
Alors déjà avant Plume de Carotte, moi je travaillais comme journaliste indépendant et aussi auteur de livres pour enfants. Et en parallèle, j'étais assez actif dans des associations d'éducation à l'environnement, où il y avait beaucoup de travail dans les années 90 sur les pratiques, justement, pour entrer en contact avec la nature. Et Plume de Carotte, pour moi, c'est vraiment né de ça, à la fois d'un bagage professionnel, je fais des études scientifiques aussi, et journaliste et auteur, et à la fois de ce côté associatif, pratique de terrain, pédagogique, comment on raconte la nature. Et encore une fois, j'insiste, parce que pour moi c'est important, évidemment c'est pas forcément les mêmes ressorts, mais que ce soit des petits-enfants ou des adultes, il y a des façons de raconter la nature qui sont similaires. Notamment pour moi qui passe par un moteur fondamental qui est la notion d'émerveillement, la notion de plaisir. J'ai du mal à croire à la pédagogie de l'anxiété. C'est vrai qu'il ne s'agit pas de se voiler la face. Évidemment que les menaces sur l'environnement, je pense qu'aujourd'hui, ça c'est une très bonne chose, notre civilisation en a pris conscience. Mais c'est des enjeux qui concernent des cercles de pouvoir, qu'ils soient économiques ou politiques ou des choses comme ça, et dont on fait partie en tant que citoyen. À l'échelle de l'individu, moi je crois beaucoup plus, si on veut réveiller le regard sur la nature, qu'il passe par apprenez à regarder de nouveau, ou à sentir de nouveau, ou à écouter de nouveau. Là, si on arrive à développer des moteurs comme ça, et encore une fois, ça peut être par un texte littéraire d'Edgar Allan Poe ou par l'idée de fabriquer un jouet de plante avec une fleur. Enfin, voilà. Donc, il y a vraiment ça. Et c'est parti de la Plume de Carotte. Et au départ, comme beaucoup de maisons d'édition, j'ai a priori un minimum de compétences et d'envie. Ouais. Je vais faire des livres quand j'aurai le temps. Donc, c'est un peu éditeur du dimanche.
D'accord.
On fait ça, on n'en vit pas forcément. On ne sait pas s'ils vont se vendre, c'est toujours un pari. Parce qu'évidemment, on n'a pas forcément fait des hautes études marketing pour savoir si on est sur le marché ou des choses comme ça. On peut sentir des choses, évidemment. Donc voilà, pendant les deux premières années, j'ai sorti royalement trois livres. Quand j'avais le temps, quand j'avais un peu d'argent de côté. Et il se trouve que ça a marché. Que ces livres... Alors évidemment, j'avais des réseaux quand même. Quand je dis que je m'occupais de rien, j'avais des réseaux de diffusion, etc., etc. Et il se trouve qu'effectivement, c'était des livres pour enfants au départ, d'ailleurs. Des coffrets d'activité. Pour jardiner, mais...
Toujours dans la nature.
Oui, dès le départ, c'était ça. C'était de façon, c'est je veux faire des livres pour donner envie aux gens de sortir. Donc, notamment, le jardinage, il n'y a pas mieux. Parce qu'on ne peut pas être spectateur devant un jardin. On est nécessairement acteur. C'est tout proche. On n'a pas besoin d'attendre le week-end ou les grandes vacances pour aller dans les Pyrénées ou dans la mer. Ça peut être au coin de sa rue, ça peut être dans un bac sur son balcon. Donc il y a ces dimensions fondamentales de proximité et de notion d'acteur. Et jardiner, par contre, ce n'était pas... toujours pareil dans cette idée de rêve, de plaisir, c'était pas soyez le parfait élevé, enfin soyez le meilleur producteur de tomates de votre quartier. Ouais. C'était ok, vous allez faire pousser des tomates, mais est-ce que vous avez déjà senti l'odeur des feuilles de tomates? Est-ce que vous avez déjà regardé une tomate coupée en deux? Est-ce que vous connaissez la biodiversité des variétés de tomates? Est-ce que vous avez goûté une tomate fraîchement cueillie? Voilà, le côté émotion, sens, ben, pour ça il faut faire pousser des tomates. Mais autour, c'est le plaisir d'une salade de tomates qu'on va offrir à sa famille ou à ses voisins. Donc voilà, c'était les premiers livres. Ça s'appelait Mon jardin de poche, notamment le premier. Dans un tout petit espace, des tas de choses qu'on pouvait faire pour s'amuser autour d'un petit jardin. Et il se trouve qu'on a sorti notre premier livre adulte fin 2003, qui s'appelle toujours, parce qu'on l'a toujours dans notre catalogue, L'herbier oublié. L'herbier oublié, c'est une histoire à la fois très belle et très simple. J'avais une amie qui, dans un grenier familial, avait trouvé une liasse de planches d'herbier assez anciennes. Elle ne savait pas trop d'où ça venait. Et puis, elle me connaissait. Elle connaissait un peu mon goût pour ce genre de choses. Et elle s'est dit, tiens, ça pourrait peut-être plaire à Frédéric. Et effectivement, j'ai reçu ça comme un cadeau magnifique, des très belles planches d'herbier, 124, de plantes en plus très, très banales. C'est vraiment les plantes qu'on trouve au coin de la rue, au coin des chemins. Ce n'est pas des raretés qu'on est allé chercher au fin fond de l'Himalaya ou des choses comme ça. C'était l'ortie, c'était la kélidoine, c'était la pâquerette, etc., etc. Et puis, pendant des mois, je crois, j'ai regardé cet herbier chez moi, émerveillé et en même temps un peu effrayé par sa fragilité. Parce qu'une planche d'herbier, il ne faut pas la mettre à la lumière, c'est cassant. En me disant, mais qu'est-ce que je pourrais en faire? Et puis, il y a eu une espèce de déclic. Alors, qui naissent à un moment, suite à des rencontres, des bouts de discussion avec les uns et les autres, de me dire, mais si on publiait un livre qui raconte les histoires humaines autour de ces plantes, les usages d'autrefois, et en publiant les planches à taille réelle, comme c'est publié, comme c'est sur du papier, on perd cette fragilité, on le rend accessible, c'est pas que moi qui peux le voir, mais c'est plein de gens, et en plus... c'est quand même, on peut avoir avec des procédés de reproduction de photographie quelque chose qui est proche du réel. Donc on a publié ce livre avec un ethnobotaniste qui s'appelle Bernard Bertrand, où pour 70 plantes à peu près, on parlait de telles plantes autrefois, et donc aussi on pourrait le faire encore aujourd'hui, comment s'en nourrissait, comment s'en soigner, l'étymologie, des jeux d'enfants, etc., etc. Et on sort ce livre à l'automne 2003, et il fait un carton, mais absolument incroyable. C'était un bouquin à 30 euros, on en vend 8000 en deux mois. Quoi.
D'accord.
Mais je ne comprenais même pas ce qui se passait. Et 15 ans plus tard, je ne comprends toujours pas. C'est ça qui est amusant.
Vous avez trouvé tant de gens passionnés comme vous, d'ailleurs.
Alors, diffusé en librairie, il avait été pris par la FNAC, par Nature et Découverte, des grands réseaux, et puis toutes les belles librairies indépendantes. Mais... ça s'appelle la magie de l'édition, où à un moment, vous faites un livre, vous le faites de manière pro, mais ça ne suffit pas. Et là, c'est des livres beaux et bien faits, ça ne suffit pas pour qu'ils marchent. Mais là, vous tombez dans l'air du temps. Voilà, je ne peux pas expliquer ça autrement. C'est assez magique. Ça n'arrive pas souvent dans la vie d'une maison d'édition.
Ça vous a aidé
Et du coup, ce livre a fait que j'ai pu m'y consacrer à 100%. J'ai pu me payer, concrètement, donc en faire mon activité principale, et petit à petit me dire, tiens, c'est peut-être intéressant, finalement ça me plaît bien, j'aimerais faire ça plus souvent que le dimanche dans mon garage. Et en fait, en quelques années, on a monté une petite équipe de 5 personnes pour pouvoir avoir les moyens humains et matériels de faire une quinzaine de livres par an. Voilà, c'est et on a sorti un certain nombre de livres et jeunesse et adultes qui ont très bien marché aussi, qui vraiment ont trouvé leur public pendant pendant plusieurs années sur autour des herbiers, mais des thématiques. On a publié notamment un livre qui a très bien marché qui s'appelle L'herbier érotique sur toutes les plantes à travers le monde qui ont soi-disant des vertus aphrodisiaques. Qu'importe si c'est vrai ou c'est pas vrai, c'est des belles histoires. On a sorti un livre magnifique sur toutes les variétés anciennes de légumes qui s'appelle De mémoire de potager, où on a travaillé pendant un an avec un conservatoire botanique qui cultivait ces légumes et on allait faire les photos au fur et à mesure. Voilà, et puis c'est la magie, effectivement. On peut être une petite maison d'édition en province, même si 90% de l'édition est concentrée sur Paris. C'est ça. Et trouver une place sur le marché du livre dans les librairies. Quoi.
Tout à fait voilà. Remarquable, parce que ça vous a donné en fait non seulement des idées, mais ça vous a encouragé. Il y a des...
Exactement.
Parce que dans les maisons d'édition, quand on démarre, parfois, même si on est bien organisé, même si on connaît bien le métier, etc., avec une équipe en place, parfois c'est le lecteur en fait, qui a le dernier...
Bien sûr, mais c'est le jeu de l'édition pour moi.
L'angle que vous avez choisi, en tout cas, c'est... Il y avait cet espace, surtout dans le marché du livre. Et,
tout à
vous
fait.
Avez, aujourd'hui, vous êtes éditeur.
Eh bien oui.
En quoi consiste aujourd'hui votre travail? Qu'est-ce qui a changé par rapport à il y a 10 ans, à 15 ans?
Alors, ce qui a changé, la première chose, parce que là, je viens de vous dresser... le tableau réel, mais un peu très positif, c'est quand même que, pardon, excusez-moi, depuis 4 ou 5 ans, le monde du livre souffre beaucoup, comme beaucoup d'autres domaines économiques, etc. Mais en fait, c'est assez étrange, le monde de l'édition n'a pas pris de plein fouet la crise en 2008, ça a été décalé de 3-4 ans, mais c'est arrivé quoi, en 2011-2012. Y a des vraies difficultés aujourd'hui, globalement, nous on l'a subi, mais c'est valable pour tous les éditeurs et les libraires, hein, c'est la chaîne du livre, et donc les auteurs évidemment aussi, où effectivement, c'est pas que les livres se vendent moins, mais ça se concentre de plus en plus, enfin d'abord il y a de plus en plus de livres, je pense qu'il y a une vraie surproduction, une espèce de course à l'échalote, voilà, et c'est de plus en plus concentré sur quelques best-sellers qui font des gros scores et qui sont un peu l'arbre qui cache la forêt, et des livres qui ont toute leur place, qui ont un public peut-être plus modeste, mais qui méritent d'exister, ont du mal à trouver leur place. Les libraires également ayant des difficultés, c'est vrai qu'ils ont tendance à moins garder les livres en fond. La nouveauté, s'il faut accueillir les nouveautés, s'il y a des livres qu'on n'a pas tous vendus, on va les retourner au diffuseur, à l'éditeur. Alors que des livres peuvent avoir une durée de vie justement importante, il y a un petit peu une accélération. Et du coup, effectivement, ça c'est un premier élément de réponse, pas forcément négatif, mais un petit peu difficile pour répondre à votre question. On doit s'occuper de beaucoup plus de choses. Même une petite maison d'édition ne peut pas négliger, évidemment, à la base, de faire le mieux possible son travail et de faire les plus beaux livres du monde, mais doit aussi travailler avec les libraires, travailler avec la presse, essayer de trouver peut-être des partenariats pour accompagner des livres, des choses comme ça. Alors, ce n'est pas forcément tout négatif, parce que ça crée aussi de belles rencontres. Là, tout à l'heure, si on a le temps, je vous parlerai d'une petite collection de romans pour enfants qu'on vient de publier en partenariat avec les musées d'histoire naturelle, notamment le musée d'histoire naturelle de Toulouse. Donc ça, c'est une nécessité pour la viabilité économique, mais c'est aussi une très belle aventure. Donc voilà, ça fait du coup des journées très hachées, où il y a beaucoup, beaucoup de choses différentes à s'occuper. Et puis après, sinon, l'autre différence fondamentale par rapport à il y a 10 ou 15 ans, c'est effectivement comment on est une petite équipe. Ça, c'est très, très appréciable. Je fais pas...
On est 4.
On est 4 aujourd'hui. Oui. Et donc, j'ai pas à m'occuper de tout. Notamment, il y a des gens.
Au départ, je me souviens, en fait.
Presque.
Le premier. Oui, vous faisiez tout.
Oui. Et on sait pas tout bien faire, c'est évident.
Oui, bien sûr, mais on est obligé.
On est obligé. Oui, tout à fait. Mais voilà, aujourd'hui, dans l'équipe de 4, il y a une autre personne qui est éditrice. Elle est bien meilleure éditrice que moi. Mais tant mieux, enfin, voilà, parce que effectivement, moi, de toute façon, il faut que je m'occupe d'autre chose, donc je n'ai pas forcément beaucoup de temps pour ça. Voilà. Après, il y a quelque chose qui n'a pas changé, et ça, c'est formidable. C'est que démarrer un projet, c'est toujours aussi extraordinaire, quoi. On sent qu'il y a un projet qui naît, parce que c'est une rencontre avec un auteur, parce que c'est quelque chose qu'on a lu dans un magazine et on explore un peu et on sent qu'il y a de la matière à aller plus loin, parce qu'on tombe sur une source iconographique qu'on trouve merveilleuse et on a envie de réfléchir à quelque chose autour. Quand on commence à réfléchir, tiens, et qu'on voit les articulations qui pourraient se faire, ça c'est toujours assez extraordinaire, quoi. Voilà.
Votre maison se trouve où actuellement, géographiquement ?
Dans le quartier des Sept-Deniers.
D'accord. Il y a une signification ou c'est
absolument non, pas. Si, il y en a une profonde, mais très personnelle. Oui. C'est que j'habite dans la même rue.
D'accord.
Donc c'est très pratique, effectivement, pour moi. Mais bon, voilà. Non, c'est une maison d'édition. Ce qui est extraordinaire. Et même si c'est encore beaucoup centralisé à Paris, il y a quand même beaucoup de maisons d'édition moyennes ou petites qui se développent partout en France, c'est que vous avez besoin d'un bureau, d'un ordinateur, d'un téléphone. Et vous pouvez être éditeur. Ça ne remplacera jamais les rencontres humaines. Et moi, je sais que même si je travaille avec des auteurs, des illustrateurs à Strasbourg, à Paris, à Toulon, dans les Pyrénées, etc., je ne fais jamais un projet sans qu'à un moment, il y ait une rencontre physique. Parce que ça, il se passe des choses qui ne peuvent pas se passer uniquement par mail ou par téléphone. Mais sinon, vous pouvez être éditeur, effectivement, n'importe où. C'est quand même ce métier, et avec les outils, évidemment, technologiques actuels, qui permet tout ça, quoi. Donc voilà, on est au Sept-Deniers. Moi, je considère que je suis un éditeur en région. Je ne suis pas un éditeur régionaliste, mais je suis un éditeur en région. Et effectivement, pour moi, ça a du sens d'être installé à Toulouse parce que j'y vis, parce que l'équipe y vit, parce que c'est une chouette ville. Même si je dois avouer que tous les week-ends, je suis dans les Corbières, en fait. Je quitte la ville.
Vous dites qu'aujourd'hui, c'est un petit peu difficile pour les maisons d'édition. À titre personnel, combien de manuscrits lisez-vous par an ? Plutôt, en fait, vous faites comment votre choix ? Alors, le choix final pour eux, parce que vous avez peut-être plusieurs manuscrits qui arrivent.
Bien sûr, on reçoit effectivement, même à l'échelle d'une petite maison d'édition comme Plume de Carotte, on reçoit une dizaine de propositions par semaine. Voilà, j'imagine les grosses. Après, c'est très particulier parce que comme on est sur une thématique précise, donc les relations homme-nature, qu'on est sur à 90% sur du livre très illustré, il y a toujours un choix qui se fait pas uniquement sur un texte, mais qui se fait aussi, c'est très souvent le point de départ, c'est une idée éditoriale et c'est un texte, mais comment on va l'accompagner en iconographie ? Est-ce que ce sera la photo ? Est-ce que ce sera l'illustration ? Est-ce que ce sera du dessin de presse ? Ça dépend des projets, mais il y a toujours cet élément qui est important pour décider d'un projet. Il y a des projets où on avait une très très belle idée au départ, mais ne trouvant pas l'articulation complète avec une iconographie ou la forme du livre, les bouquins ne se sont pas faits. Alors, donc on reçoit effectivement pas mal de projets, et si ça colle avec notre thème, et si c'est pas quelque chose qu'on a déjà traité aussi, une thématique qu'on a déjà traitée, ça peut faire l'objet d'un approfondissement avec un auteur. Là, par exemple, la semaine dernière, j'ai reçu une proposition d'une personne de Bordeaux, je crois, sur une sorte d'historique des jardiniers pour l'instant c'est un petit peu confus pour moi, je vous donne un exemple parce que c'est intéressant le processus, mais je sens un fort potentiel parce qu'elle parle des jardiniers utilitaires, des jardiniers d'art, des jardiniers imaginaires. Il y a une espèce comme ça de panorama de l'histoire humaine du rapport à la nature qu'est le jardinage, qui est une forme particulière, en allant chercher des témoignages. Enfin, je trouve que son projet est très riche parce qu'il embrasse plusieurs époques, plusieurs points de vue sur une même thématique. Et là, typiquement, je me donne un petit temps de réflexion en disant « Oui, ça, c'est un projet qui m'intéresse, mais j'aimerais que ça ne soit pas qu'un livre de texte. J'aimerais que ça soit aussi porté par de l'image qui raconte aussi, pas pour faire joli, mais pour raconter. Là, je me laisse un peu de temps. Je commence à explorer sur qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme type d'accompagnement iconographique pour ce projet. Après, il y a beaucoup d'autres projets qui sont initiés par nous. Ce n'est pas forcément des choses qui nous arrivent. C'est nous qui avons une idée. par rapport à une thématique qu'on a repérée et qui allons chercher des auteurs ou des illustrateurs. Voilà.
D'accord. On profite en fait de l'arrivée de Rémi Demersman-Pradel, directeur de la publication du journal toulousain.
Bonjour.
Bonjour Rémi et bienvenue dans l'émission Si Demain de Radio Occitanie Première. Donc, je vous présente notre invité Frédéric Lizac, directeur de l'édition Plume de Carotte. Donc, aujourd'hui, vous avez repris le journal toulousain. Qu'est-ce que vous nous allez dire aujourd'hui pour la nouvelle formule de journal toulousain?
Alors, déjà, repréciser le contexte. Puisqu'on a repris le journal toulousain avec une équipe de journalistes. L'idée, c'est de sauver la presse et la presse indépendante, et donc de donner la capacité à des journalistes d'être maîtres de leur outil de travail. Moi, je ne suis que chef d'entreprise, entrepreneur, pour les accompagner dans ce travail-là, le plus modestement possible et le plus efficacement possible. En 2014, donc, une équipe de journalistes a voulu reprendre cet hebdomadaire papier, le journal toulousain, on trouve en kiosque et sur abonnement, avec une ligne classique à l'époque qui était de traiter l'information hebdomadaire locale. Et nous avons fait évoluer cette ligne avec un objectif qui est de se différencier un peu des publications qui existent, puisque ça ne servait à rien d'être une publication similaire parmi d'autres. Et donc de se placer sur un créneau qui n'est pas couvert aujourd'hui explicitement à Toulouse, même si certains de nos confrères traitent cet angle-là de temps en temps, qui est le créneau du média de solution. C'est-à-dire de dire, puisqu'on a un lectorat chaque semaine, hebdomadaire, on n'a pas un lectorat qui cherche l'actu chaude de l'instant, on a un lectorat qui prend déjà un peu de... qui attend de nous qu'on prenne déjà un peu de recul sur l'actualité. Et donc, on va, dans un dossier chaque semaine différent, traiter d'un sujet social, sociétal ou environnemental qui les concerne, qui concerne tout le monde, avec un angle triple qui est de dire, on va vous aider à comprendre ce qui se passe, quel est le sujet, à s'inspirer en étudiant comment d'autres communes, d'autres personnes, d'autres entreprises ont réagi par rapport à ce sujet et ont agi. Et ensuite, vous donner les clés pour agir vous-même avec 5-6 solutions permettant à chaque lecteur de s'emparer du sujet et dire, voilà, moi, je peux devenir acteur. Par exemple, on a traité sur la thématique de comment vivre éventuellement Toulouse sans voiture un jour. Et donc, plutôt que de prendre l'angle de dire, il y a des bouchons dans Toulouse, on a pris l'angle de dire, ben, voilà, comment est-ce qu'on peut faire pour vivre sans voiture dans Toulouse, en étudiant comment d'autres villes le faisaient, donc le cas d'Amsterdam, comment d'autres villes essayent de le faire, comme Paris, et puis en donnant ensuite des clés comme l'accès à Cities pour avoir de la voiture partagée, le vélo avec la maison du vélo, etc. Voilà cette ligne qu'on a mis en place pour donner une différenciation à ce journal et pour faire en sorte que ce journal local puisse avoir une valeur ajoutée différente des autres journaux locaux pour que tout ça soit un écosystème de différents médias complémentaires les uns avec les autres.
C'est une nouvelle formule de médias qui a traversé quand même des rudes épreuves ces dernières années.
Absolument.
On est bien d'accord. Et ça a été soutenu en fait par une campagne de financement participatif, c'est ça?
Alors on a même fait deux campagnes de financement. On a fait une première campagne au moment de la reprise en 2014 et là, au moment où on a lancé la nouvelle formule, il y a eu quelques frais, il a fallu relancer une maquette, on a changé le format même de lecture. Et effectivement, on a fait sur Ulule appel à une campagne de financement participatif qu'on a réussi à boucler. On en est très très content. Et actuellement, on travaille sur la notoriété du journal, puisque c'est un journal qui a quand même un peu plus de 20 ans, mais qui est encore trop peu connu. Donc on travaille sur des événements, sur la rencontre avec le public. On a lancé une série de débats télévisés qu'on diffuse sur notre page Facebook notamment et ensuite qu'on peut retrouver sur notre site internet autour de sujets, de grands sujets de société. Le premier était sur, de mémoire, c'était sur Val-Tolosa. Si Val-Tolosa ne se fait pas, quelle alternative? Le deuxième était sur Toulouse sans bagnole. Et le troisième devrait être sur comment peut vivre la communauté, la collectivité avec moins de ressources.
D'accord. Et vous avez les mêmes équipes de journalistes qui se trouvaient en 2014, 2016 sur votre
journal? Non. Certains sont partis pour des raisons chaque fois diverses. Il y en a un qui a voulu monter son propre média, une qui est partie, qui a quitté le journalisme pour aller dans un service de communication, une autre qui, à ma connaissance, est partie materner. Voilà, donc plein de raisons différentes. L'équipe tourne, c'est un organisme vivant, c'est une entreprise, et c'est très sain. Et on a fait rentrer de nouveaux sociétaires, parce qu'on est en société coopérative. Donc c'est pareil, les sociétaires rentrent et sortent.
D'accord. Merci pour ces explications. À l'instant, je demande à Jean-Loup s'il veut bien de nous passer un petit peu en fait l'interview de Christian Moreto avec Marie-Monique Robin sur son dernier documentaire Roundup face à ses juges.
Alors Marie-Monique Robin, merci d'avoir de répondre aux questions d'Occitanie Première. Donc tu as suivi le procès du Roundup et donc de Monsanto et par ricochet celui des transnationales qui nous empoisonnent à La Haye avec de vrais juges. La firme a été condamné pour crimes contre l'humanité et d'écocide. Tu as
Il n'a pas été condamné. Hein.
Non.
Il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de verdict. Donc ce n'est pas possible ça. On peut pas dire ça. Il y a un avis juridique qui a été rendu par les juges et qui ont dit donc qu'en vertu du droit international, Monsanto violait un certain nombre de droits, comme le droit à l'alimentation, le droit à la santé, le droit à l'environnement sain. Mais il n'y avait pas de verdict. Ce n'était pas possible hein, parce que c'est un tribunal qui était donc convoqué par la société civile avec de vrais juges mais qui ne pouvait pas rendre de verdict. Donc, voilà, ils ont rendu une opinion juridique d'autorité, on appelle ça, voilà.
D'accord, merci pour la précision. Donc, tu as réalisé derrière un documentaire qui a été diffusé sur Arte, qui est diffusé aussi chez nos amis de l'American Cosmographe. Tu as également publié donc un ouvrage, le Roundup, face à ses juges à la découverte Arte Édition. Mais l'empoisonnement des populations se poursuit avec une Europe qui semble être au service des empoisonneurs. C'est en tous les cas le sentiment que nous pouvons avoir aussi en tant que société civile. Que pouvons-nous faire face à ce déni, à cette non-reconnaissance du danger qui nous font courir, que nous font courir les dirigeants de ces firmes et leurs actionnaires ?
Ce qu'on peut faire, c'est se mobiliser hein, pour exiger de nos élus qu'ils fassent pression pour que ce glyphosate, cette fameuse molécule active du Roundup, l'herbicide le plus vendu au monde, soit définitivement interdit. Alors que là, pour l'instant, on est reparti pour 5 ans. Hein, donc voilà. Et puis les citoyens, ils peuvent aussi eh bien, s'organiser pour manger bio, donc favoriser les AMAP, les circuits courts, les marchés paysans et éviter les supermarchés. Où beaucoup de produits sont contaminés par le glyphosate, d'ailleurs, et notamment la viande. Hein, parce que je rappelle que la totalité des élevages industriels de France, que ce soit les poules, les vaches ou les cochons, sont nourris avec du soja transgénique arrosé de Roundup et de glyphosate qui est importé d'Amérique du Nord ou du Sud. Donc voilà, il y a deux actions possibles. Hein, c'est au niveau où chacun peut manger autrement, et puis deux, interpeller son député, informer aussi et puis demander à ce qu'on interdise non seulement le glyphosate, mais au-delà de ça, qu'on rentre véritablement dans un nouveau modèle agricole et qu'on accompagne la transition vers une agriculture durable et non chimique.
Et dans cette affaire-là, nous pouvons nous dire qu'aussi les dirigeants de la FNSEA sont un petit peu complices et poussent vers cette industrie, on va dire, de l'agriculture.
Le problème de beaucoup de dirigeants de la FNSEA, c'est qu'ils sont liés aux grandes coopératives agricoles qui gagnent de l'argent, énormément d'argent, avec la vente des produits chimiques, des pesticides, des engrais chimiques, etc. Donc là, il y a un vrai conflit d'intérêts, en fait. Hein, voilà. Donc il faudrait à un moment qu'ils aient le courage de regarder la réalité en face. Et moi, je dis souvent d'ailleurs que, vu le nombre de paysans malades aujourd'hui en France, hein, ils sont de plus en plus nombreux et qui en plus sortent du silence. Hein, moi, j'avais révélé dans mon film Notre poison quotidien l'histoire de Paul François, le céréalier charentais, qui a été intoxiqué par un produit de Monsanto, le Lasso, qui a porté plainte contre Monsanto, a gagné en première instance, deuxième instance, et maintenant c'est en cassation, il y a de plus en plus d'agriculteurs qui parlent. Donc, je pense que ça serait vraiment judicieux de la part de la FNSEA de sortir du déni dans lequel ils sont, parce qu'il faut dire les choses clairement, hein, et parce que la roue, elle tourne, et un jour, on leur demandera des comptes. Et voilà, donc, ça y est, il faut tourner la page. On a fait 50 ans d'une expérimentation qui a été assez désastreuse, finalement, hein, aussi bien pour l'environnement, pour les agriculteurs. Je rappelle qu'il y a un agriculteur qui se suicide tous les deux jours en France, que une grande partie d'entre eux gagnent moins de 350 € par mois. C'est pas très brillant, tout ça. Hein. Et il n'y a jamais autant de suspicions de la part des consommateurs par rapport aux aliments. Et ils ont raison. Hein. L'eau est polluée, l'air est pollué, enfin. Donc... Revoyons la copie et on sait ce qu'il faut faire. La bonne nouvelle, c'est qu'on a les solutions. Voilà.
Alors justement, dans cette affaire de prolongation, finalement, je pense entre autres à une des victimes, enfin en tous les cas, son fils Théo, c'est Sabine Grateloup qui a un fils donc lourdement handicapé suite donc au passage du glyphosate. Donc on se dit que finalement la bataille elle est longue à mener et que peut-être que les instances aussi qui décident sont un petit peu phagocytées par ces dirigeants de transnationales.
Bon, ben, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en vue du dossier scientifique, il y a des centaines d'études indépendantes qui montrent que ce glyphosate est toxique, on aurait dû l'interdire simplement. Voilà. Donc là, on est en face d'une défaillance du système institutionnel, hein, et des agences de réglementation. Et l'Europe viole ses propres lois, en fait, ses propres réglementations. Donc, c'est pas fini, parce qu'il y a des recours qui ont été déposés, hein, contre cette réhomologation du glyphosate pour 5 ans, à suivre donc, mais les citoyens doivent aussi se mobiliser. Voilà.
D'accord, merci.
Vous êtes toujours à l'écoute de Occitanie Première dans l'émission Si Demain, produite par Christian Moreto. Je profite de l'occasion de lui passer un bonjour vitaminé parce qu'il a bien besoin, il est cloué au lit. Donc je suis dans le studio, je profite en fait de ces dernières minutes avec Rémi Demersman-Pradel, directeur de la publication du journal toulousain, et Frédéric Lisac, directeur de Plume de Carotte. Donc on revient un petit peu sur votre maison d'édition. Vous avez aujourd'hui, en fait, votre Plume de Carotte, ça fait un bon chemin. Quelles sont les actualités aujourd'hui? Parce que dans le studio, les auditeurs ne nous voient pas, mais on a plein de livres. Vous le mettez plein les yeux. Moi, j'en ai un qui est mon préféré, là, comme ça, de loin.
Alors, parler d'actualité quand on parle d'édition, c'est pas toujours le cas, effectivement, mais on n'est pas forcément. Non, mais comment parler du journal toulousain, on n'est pas forcément inscrit dans l'actualité, même si, effectivement, il peut y avoir des livres qui sortent, mais qui sont souvent des livres assez éphémères, les livres qui parlent d'actualité, notamment politique ou des choses comme ça. Là, c'est effectivement plutôt l'envie de s'inscrire dans des temps longs. Alors, l'actualité de Plume de Carotte, elle est en fait, je dirais qu'on retrouve une seconde jeunesse, à la fois au sens propre et au sens figuré, à la fois parce que je vous disais qu'on vient de passer 3-4 années un peu difficiles, comme beaucoup de maisons d'édition, et qu'il semblerait que ça va mieux, bah, tout simplement parce qu'on a réduit la voilure, parce que, voilà, tout en essayant de rester ambitieux sur nos livres, et aussi parce que, alors qu'on avait arrêté pendant quelques années de faire des livres pour les enfants, bah là, on y est revenu cet automne à grands pas. Bah notamment avec un livre dont on est très très fier, puisque c'est un livre qu'on a fait avec Pierre Rabhi, l'agroécologiste, qui est en fait le premier livre qu'il a écrit pour les enfants.
D'accord. Voilà. Il parle aux enfants.
Exactement. En fait, c'est un récit, mais qui retrace le fil de sa vie, de ses réflexions, de ses rencontres, de ses expériences. Et voilà. Je suis d'autant plus content de ce livre, fier, même, je dirais, que c'est. On parlait tout à l'heure comment les projets naissent. Là, c'est moi qui suis allé le voir et qui lui ai dit écoutez, il me semble que votre parole peut être aussi audible pour des enfants, votre expérience. Ça se travaille. Enfin, je vous propose qu'on vous accompagne parce qu'on n'écrit pas pour les enfants comme on écrit pour les adultes. Parce que je pense qu'à partir du moment où on fait un livre pour enfants, c'est intéressant de travailler aussi sur une écriture par l'illustration, pas simplement par le texte. Et donc, on est allé chercher un dessinateur local, puisqu'il vit dans la région toulousaine, qui s'appelle Marc Nguessan. Et voilà, il y a eu des rencontres entre ce dessinateur, entre Pierre Rabhi et nous, pour faire ce projet donc, qui s'appelle « L'enfant du désert », et qui est donc un livre pour les enfants à partir de 9 ans, mais qui peut être lu comme un conte. Et j'ai eu des témoignages de parents qui l'ont lu à des enfants de 6 ans et où ça fonctionne, qui n'est surtout pas un livre prosélyte. Le prosélytisme ne m'intéresse pas de manière générale, et quand on fait des livres pour enfants, évidemment encore moins, mais qui est le livre qui, sous forme d'une belle écriture et d'un récit en images, raconte quand même une vie pas commune de ce monsieur, quoi, qui est un autodidacte total, qui n'a pas forcément découvert tout seul l'agroécologie, mais qui a eu envie de la transmettre très vite et de partager, et qui aujourd'hui encore a une énergie folle pour partager ça. Et donc voilà, il y a ce livre qui vient de sortir, et puis d'autres ouvrages effectivement pour enfants, toujours dans cette idée de, on parle de relations homme-nature, et aussi où effectivement l'iconographie peut être très très forte. Notamment, je voudrais bien prendre 2 minutes pour parler de notre album qu'on a sorti cet automne, qui est en fait le fameux texte de Henri David Thoreau, Walden ou La vie dans les bois, donc texte presque mythique de l'écologie, de la deep ecology, puisque écrit en 1859 par cet Américain qui passe des mois et des mois seul dans des bois et qui, avec une écriture à la fois très sensible et complexe, c'est pas simple à lire Thoreau, raconte et c'est un des premiers écrits qu'on connaît, raconte effectivement à la fois le côté émotionnel et le côté sensible, mais aussi de sensibilisation de notre rapport à l'environnement. Il faut savoir que les tout premiers parcs nationaux ont été créés dans le monde aux États-Unis à la fin du 19e siècle. Le président de l'époque étant fortement inspiré par les écrits de Thoreau. Donc Walden ou la vie dans les bois, ce texte qui a été traduit 200 fois, enfin dans toutes les langues et toutes les moindres, n'avait jamais eu d'adaptation pour enfants. Et là, c'est évidemment des extraits de ce texte, un travail avec un grand illustrateur italien qui s'appelle Giovanni Manna, qui avec sa propre sensibilité a transcrit ce côté sensible, émotionnel de ce que ça peut être des temps longs passés en solitaire dans des bois, et donne cet album magnifique qui s'appelle Une année dans les bois. Voilà, donc toujours pareil, ce côté, là on est très dans le côté émotionnel et sensible, mais de notre rapport qu'on peut avoir avec la nature.
D'accord. Je passe la parole à Rémi, parce qu'il est arrivé un peu en retard, donc il faut qu'il rattrape un peu, même si on ne le maîtrise pas, en fait.
Il a du temps d'avance, c'est ça ?
Oui, un petit peu, on n'est pas en période électorale. Rémi, le journal Toulousain, c'est un média de solutions, vous avez souligné tout à l'heure. Et vous avez créé, en fait, entre autres, je regardais un petit peu en fait, ce qui se passe dans votre journal, vous avez créé aussi les trophées des solutions où il y a les entrepreneurs en fait, ou des associations qui sont nommées. En fait, de quoi il s'agit
alors,
exactement ?
L'idée, c'est de se dire on a besoin d'être identifié par le public sur ce qu'on peut apporter, d'une part. Et d'autre part, à force de parler de solutions et d'identifier quels peuvent être les outils à la portée de nos lecteurs pour pouvoir agir sur l'environnement, le social ou le sociétal, on a identifié un certain nombre de pépites, c'est-à-dire un certain nombre d'actions, d'entreprises, d'associations qui nous semblent fortement intéressantes à mettre en avant. Et donc on a eu envie de les honorer, et donc on a organisé avec un jury composé de personnalités de divers horizons. Il y avait des gens de l'UNICEF, il y avait des gens de l'Union régionale des SCOP, il y avait des acteurs culturels, il y avait des universitaires. Nous étions une quinzaine, et représentants de la Chambre de commerce et d'industrie également. Nous nous sommes réunis pour pouvoir identifier parmi les 250 de mémoire solutions que nous avions identifiées en une année, quels pouvaient être ceux qui méritaient d'être honorés dans trois catégories. C'était associations, entreprises et particuliers de mémoire. Et donc nous avons organisé une remise de ce trophée lors d'une soirée le 30 mars l'année dernière. Et donc nous réorganisons cette année cet événement qui avait bien fonctionné, parce qu'il y avait beaucoup de monde qui était venu à participer. Et nous allons plus loin cette année, puisque nous avons été rejoints dans la démarche par la fondation Reporters d'Espoir, qui est une fondation au niveau national, qui a vocation à faire en sorte qu'un maximum de médias se mettent à traiter l'angle solution. Et notamment, c'est eux qui sont à l'origine du Libé des solutions, que Libé, le journal Libération consacre, je crois que c'est une fois par mois. Entre autres choses, ils ont des actions dans l'ensemble des médias pour faire en sorte que les médias se tournent résolument vers cette logique solution, qui est une logique importante pour notre société. Alors, je veux dire une aparté là-dessus, pourquoi c'est important ? Parce qu'on part du constat que lorsqu'un média parle, les gens l'écoutent. Et en ce faisant, le média a une influence sur ce que pensent les gens, et notamment les médias de masse. Moi, j'ai jamais oublié la phrase du PDG de TF1 qui disait que le métier de TF1, c'était de vendre du temps de cerveau disponible à Coca-Cola. Or, la plupart des médias n'ont pas cette activité-là. La plupart des médias ont l'activité d'informer, mais néanmoins, le poids des médias fait que, effectivement, on amène le cerveau des lecteurs, des auditeurs, à être disponible et réceptif à un certain nombre de choses positives ou négatives. Et si tous les médias se mettent à traiter de négatif, la société se sent un peu négative. Et si tous les médias se mettaient à traiter du positif, la société se sentirait un peu plus positive. Et donc, Reporters d'Espoir a été fondé dans l'objectif de faire en sorte qu'un maximum de médias reprennent conscience de ça et se mettent à traiter l'information de manière positive, c'est-à-dire en apportant les solutions. C'est-à-dire, il n'y a pas question de se dire il n'y a pas de problème. Non, il y a des problèmes. Mais dès qu'il y a un problème, on traite le sujet en disant voilà le problème et voilà comment on pourrait résoudre ce problème-là, pour ne pas rester dans le constat négatif et pour réamener une piste d'espoir. Et donc, on s'est associé avec Reporters d'Espoir pour organiser la France des solutions, toute une journée. Alors, je n'ai pas encore la date. Ce sera en mars ou en avril. Toute une journée consacrée à cette logique-là, avec tous les médias toulousains qui seront invités, vous serez invités à y participer, toute la journée à Toulouse, et avec le trophée des solutions le soir, qui sera remis de nouveau par JT sur l'ensemble des solutions qui ont été traitées dans l'année. Voilà.
D'accord. Frédéric, tu avais une question pour
Oui, enfin, une question, une interrogation, et sans être provocateur, c'est quand même gonflé aujourd'hui de se dire on va développer un journal papier hebdomadaire dans un monde où ça doit être, j'imagine, extrêmement difficile. Et je vais être un peu provocateur en disant, vu la masse d'infos qu'on reçoit par différents réseaux, que ce soit la télé, la radio, évidemment, tous les internets, etc. C'est quoi l'intérêt d'un journal papier aujourd'hui ?
Alors, le journal papier, c'est comme les livres par rapport aux liseuses Kindle. Il y a un rapport au papier qui fait que... Enfin, Kindle ou d'autres, peu importe la marque, mais aux liseuses électroniques, il y a un rapport au papier, de la main au papier, qui ne se perd pas aujourd'hui. On le constate, les lecteurs restent massivement attachés au papier. Et donc, le papier, l'hebdomadaire papier, est un outil qui permet aussi de poser une matérialité sur le média. Nous serions un média 100% web, ça pourrait être intéressant, mais il y aurait un rapport... à notre lectorat qui serait un peu différent. Après, le fait d'être gonflé pose la question sous-jacente du modèle économique et de la possibilité de rendre viable un hebdomadaire papier. Un journal toulousain qui est devenu JT entre-temps, il faut comprendre que nous avons une rédaction print, donc papier, et la rédactrice en chef est Séverine Sarat, et nous avons maintenant un rédacteur web, et même multimédia, il n'est pas que web, c'est Philippe Salvador, qui est chargé de développer JT sur l'ensemble des autres supports possibles. L'idée étant de développer l'audience et donc de développer les sources de revenus pour que ce média puisse fonctionner. On fait des événements, donc le Trophée des Solutions, on édite une newsletter, on édite le site web, on a une nouvelle version qui va sortir. Tout ce travail-là vise à augmenter le lectorat et notamment le lectorat payant. Il faut bien comprendre que notre posture est de dire le 100% gratuit est une erreur pour les médias, qui a été commise il y a une vingtaine d'années déjà et qui continue à être commise pour un certain nombre de personnes. Ça rend les médias 100% dépendants des régies pub. Et nous avons nous-mêmes créé une régie pub parce qu'il faut bien à un moment pouvoir gagner de l'argent. Mais le tout gratuit est une erreur et la seule solution pour moi au niveau de la presse est la même que la solution qui s'est imposée dans l'industrie de la musique. Lorsque Deezer et Spotify ont commencé, et c'est arrivé l'année dernière, à prendre un poids suffisant, ils représentent 35% maintenant des recettes musicales, et ben on a vu que le chiffre d'affaires global de l'ensemble de l'industrie musicale a arrêté de baisser. Et moi, je prône pour la presse la création d'un Deezer de la presse. Et je travaille avec quelques acteurs toulousains à voir comment on peut mettre en place une solution technique qui permette à chaque lecteur, alors ça n'existe pas encore, mais je vous raconte comment ça va se passer le jour où ça marchera, qui permettra à chaque lecteur de payer un abonnement de 10-15 euros par mois, lui permettant d'accéder à l'ensemble des supports. Alors certes, vous me direz, c'est moins cher que, et donc pour les journaux, c'est moins de recettes que s'il prenait son abonnement indépendamment les uns des autres, sauf qu'ils ne le font jamais. Le lecteur, il s'abonne à une, deux revues, et en moyenne, il paye 15 euros par mois, c'est déjà beaucoup. Si on fait le pari de dire pour 15 euros par mois, vous avez accès à tous les médias, il y aura plus de monde qui prendra l'habitude de payer, qui du coup aura l'accès aux articles, à condition que les médias arrêtent de diffuser les articles gratuitement, notamment sur Facebook.
Mais là, vous parlez des médias électroniques, pas des médias papier.
Non, les médias papier ont tous des déclinaisons électroniques.
Oui, mais le modèle économique dont vous parlez, d'abonnement multiple, c'est par rapport à l'accès à des...
Vous ne recevrez pas votre média papier si vous prenez l'abonnement à Deezer de la presse. Oui. On est d'accord. Mais vous aurez accès à l'information à laquelle sinon vous n'accéderez pas. Par exemple, je rêve que Libération arrête de mettre ses articles gratuitement en ligne. À partir du moment où ils passeraient sur un Deezer de la presse, pour accéder à un article de Libération, vous serez obligé de payer. Si tout le monde s'y met, à un moment, culturellement, les gens, les lecteurs, admettront que l'information n'a pas de prix, elle a un coût.
Ce qui commence quand même, il y a eu un virage il y a quelques années, il y a quand même des sites d'information pure player.
C'est ça.
Qui fonctionnent avec Mediapart ou des.
Les Médiacités à Toulouse.
Et qui arrivent à fonctionner effectivement en sortant de la gratuité, quoi.
Voilà. Et c'est ce modèle-là que nous voulons. Que nous voulons déployer en disant tout le monde peut passer sur le 100% payant et les lecteurs
en ligne, je suis d'accord avec ça, les lecteurs en ligne prendront l'habitude de payer alors qu'aujourd'hui c'est gratuit. Et ne resteront gratuits que les sites d'information qui sont louches, je dirais, pour un certain nombre. Et donc, à partir de ce moment-là, les gens se méfieront de l'information 100% gratuite, ce qui entraînera un mouvement de la même manière que l'industrie du disque. Ça a pris quelques années, mais le virage a été pris. Moi, je crois beaucoup à ça pour la presse.
Oui. Avant d'attaquer les 10 dernières minutes de notre émission, je profite de l'occasion d'annoncer la venue de Gaspard Dalens à la librairie Terra Nova demain à 19h. Il évoquera en fait son plus récent ouvrage paru chez Seuil, Bure, La bataille de nucléaire. Et je vous rappelle également que l'interview de Marie-Monique Robin, vous pouvez le suivre sur le podcast sur Occitanie Première. Donc, tant qu'on parlait d'électronique, je passe à une question pour Frédéric. Est-ce que vous voyez, en fait, aujourd'hui, une place au livre électronique ? Est-ce que vous envisagez, vous ?
Chez Plume de Carotte ?
Ouais.
Never.
En fait, je vous pose la question.
Non,
mais je connais la réponse d'avance.
Assez fermement, parce qu'évidemment, j'y réfléchis.
Et pourquoi ?
Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Moi, personnellement, je vais vous répondre parce que j'aime pas ça. Voilà. Donc là, c'est très subjectif. Ou plutôt le corollaire, j'aime trop le livre papier. Pour moi, effectivement, je suis aussi un grand consommateur de journaux papier. Je suis abonné à 2 quotidiens, à 3 hebdo, enfin, etc., etc. Lecteur sur tablette aussi. Mais voilà, c'est ce qui m'intrigue, je vous avoue, c'est que j'ai l'impression que c'est un goût personnel. Est-ce que c'est quelque chose qui va rester collectivement ?
Je suis convaincu que ça restera. Je vois les populations actuelles. Il y a eu une montée en puissance avec l'arrivée de l'iPad, notamment une montée en puissance de la lecture sur tablette, et ça redescend. Je vois certains vont plus loin et vont dans les liseuses, mais beaucoup de gens retournent aussi, se détournent un peu du tout électronique et retournent progressivement au papier. Donc moi, je crois qu'il va y avoir un point d'équilibre.
Enfin, en tout cas, moi, je le vois à titre personnel comme un outil complémentaire. Effectivement, je vais plutôt zapper sur des supports électroniques et plutôt du coup me plonger au point que un journal comme Le Monde auquel je suis abonné, papier, je vais 2-3 fois par jour sur l'appli à la rigueur les journaux s'accumulent pendant une semaine et c'est le week-end où j'ai déjà lu la moitié des brèves de toute façon sur tablette et c'est plutôt les gros papiers que je prends le temps de lire sur la formule papier, les gros articles. Voilà. Enfin, en tout cas,
on voit bien qu'il y a ce double usage. Ou sur l'information immédiate, sur la brève, sur l'information courte, l'article lu en 3 à 4 minutes, les gens vont effectivement aller sur le téléphone, sur l'ordinateur. Et dès qu'on a un rapport au temps de lecture qui est plus élevé, le confort vient de tenir le livre ou de tenir le journal ou de tenir le magazine. Et moi, je crois beaucoup à ça. C'est un point d'équilibre très intéressant pour tous les acteurs. Mm-hmm. Ça permet d'avoir un point d'entrée via le web qui est rapide et pour les marques, parce que nos métiers sont des métiers de marque aussi, on a besoin d'être identifié parce que notre marque correspond à ce que le service qu'attend le lecteur. Donc l'immédiateté va permettre d'arriver sur la marque et de voir la différenciation de telle marque média par rapport à telle autre. Et ensuite, le rapport au temps permet ensuite de prendre l'objet en main. Et il faut les deux, clairement.
Et vous, Rémi, vous avez une liseuse, vous, dans votre cartable, non ?
Moi, j'ai un smartphone, je lis beaucoup d'informations brèves rapidement. Je suis sur Facebook et j'utilise aussi Facebook pour accéder à un certain nombre d'informations, c'est très très bien. Et par contre, dès que je veux passer sur un temps long, je lis. Moi, je lis un livre par semaine sans compter les bandes dessinées. Depuis des années, j'adore le rapport au livre, le garder, le trimballer dans le sac et ensuite le stocker dans mon armoire. J'ai des armoires qui regorgent de livres, de BD, etc. Et je transmets ça à mes enfants et je trouve ça formidable. Je les vois tenir un livre, une BD, l'ouvrir, lire. Voilà. J'ai beaucoup réduit le temps d'écran par rapport à il y a quelques années. On a viré la télé de la maison. J'ai pas de tablette à la maison non plus. Donc on a un vidéoprojecteur et des DVD quand on a besoin de se regarder un film ensemble. Et sinon, en dehors de ça, on est beaucoup plus en rapport au livre que scotché derrière un écran et passé derrière un écran.
Je voudrais juste revenir un petit peu sur effectivement le non-choix du livre électronique. Donc effectivement, il y a une histoire de goût. Il y a une histoire que l'objet livre, pour moi, a un vrai sens. Quand on fait un grand album, quand on fait un petit livre de poche, on ne le lit pas de la même façon et tout ça n'est pas anodin. Voilà, l'espace qu'il prend devant nous, la façon dont on le touche, dont on le stocke. Bon, on ne va pas faire des...
Oui, on a un autre rapport.
Mais on a vraiment un rapport à l'objet livre. Pour moi, tout ce qui est support électronique est de l'ordre de l'obsolescence, programmée ou non, mais de l'obsolescence. J'avais bien aimé à une époque, il y a quelques années, c'était Umberto Eco et Jean-Claude Carrière qui avaient fait un petit bouquin ensemble qui s'appelait N'espérez pas nous débarrasser des livres. Bon, c'était tous les deux des biophiles, enfin, c'est toujours pour Jean-Claude Carrière. Et notamment, il s'amusait, c'était une espèce de dialogue plus que vraiment d'un livre écrit. Mais il disait, vous rendez compte, depuis que les ordinateurs sont arrivés sur le marché, donc c'était en 2008, je crois, ils ont sorti ce bouquin 2008-2009, on en est déjà à la 10e version de support si on veut continuer à pouvoir lire. Ce qu'on a enregistré ou écrit ou créé au début des années 80. Jusqu'à preuve du contraire, il y a un monsieur qui s'appelle Gutenberg qui en 1500 a imprimé des Bibles. Il y en a beaucoup qui ont été détruites, mais 500 ans plus tard, il y en a encore 13 qui existent dans le monde physiquement, qui sont fragiles, qui sont préservés, mais qu'on peut toujours. Voilà, donc il y a une espèce, pour moi, le livre est une espèce de non-obsolescence programmée, même si évidemment il n'a pas une durée de vie éternelle, et cette notion m'intéresse. Et le dernier élément pour terminer, c'est que là, il est beaucoup plus économique. Aujourd'hui, le livre économique n'a pas pris. Enfin, le livre électronique, pardon, excusez-moi, n'a pas pris. Le marché français, aujourd'hui, c'est 4%. Il faut savoir que c'est monté aux États-Unis jusqu'à 12-13% et que ça commence à se tasser depuis 2 ans. Donc, la déferlante qu'on annonçait de le livre électronique arrive et va faire disparaître le livre papier ne se concrétise pas.
D'accord, bah tant mieux pour.
Oui.
Pour vous.
Et alors, dans cette logique-là, moi, je voudrais juste mettre en avant une association qui s'appelle l'association Point Virgule, qui a été créée il n'y a pas très, très longtemps. En plus du journal Toulousain, je suis le responsable d'un Labo Écos à Toulouse, qui est un lieu de service aux entreprises. Et l'association Point Virgule, que la fondation Écos a cofinancée, a pour objectif d'installer des boîtes à livres dans les entreprises pour que les gens puissent échanger des livres. Et ce que j'ai vu dans le Labo Écos, où nous avons installé une boîte à livres, c'est que la vie de quartier est différente. Les gens viennent se prendre les livres dans la boîte à livres, en déposer et échanger là-dessus. Et donc je crois vraiment que le livre est très vivant et c'est aussi un moyen d'échange. Et rien de plus plaisant pour moi que de déposer un livre et puis de voir le lendemain qu'il est parti et d'en trouver un autre à la place. C'est des choses que j'invite à faire dans toutes les entreprises, installer des boîtes à livres avec l'association Point Virgule, qui est une association toulousaine, que je vous invite à inviter une fois pour en discuter avec elle. Voilà.
D'accord. Et vous avez encore du temps. Vous pouvez annoncer votre site. On peut vous lire sur Internet, le journal Toulousain.
Alors, le journal Toulousain, on le trouve dans toutes les presses. On le trouve dans les supermarchés, tous les endroits où on peut acheter un journal. On peut trouver le journal Toulousain. On reconnaît au grand logo JT. Et on peut l'avoir sur abonnement également et sur le site Internet www.lejournaltoulousain.fr.
D'accord. Et Frédéric, vous avez un site
Oui, on a un site, mais c'est pas intéressant parce qu'on ne peut pas lire nos livres. Non, c'est un site d'information, effectivement, plumesdecarottes.com. Non, sinon, on est. C'est ce que je disais, on peut être une petite maison d'édition en province et être bien diffusé. On est dans toutes les bonnes librairies de France et de Navarre, et notamment, effectivement, sur Toulouse et son agglomération. Toutes les belles librairies, c'est. La librairie est loin d'être morte. Il y a des librairies qui sont ouvertes ces dernières années, notamment à Colomiers, à Blagnac, très récemment. Il y a encore des belles choses et des gens qui ont de l'énergie pour créer des librairies. On a vu plutôt décliner des réseaux comme Virgin, Fnac, qui vendent plus de brosses à dents électroniques maintenant que de livres ou des choses comme ça.
Il faut encore défendre les librairies. Il faut garder l'habitude d'aller acheter dans les librairies. Moi, je vois à Plaisance du Touche, la petite librairie Les Rois Éclats. Je fais la promotion pour que les Plaisançois aillent acheter leurs livres là-bas et arrêtent d'acheter sur Amazon notamment, parce que l'immédiateté de l'achat sur Amazon est peut-être intéressant, mais derrière, ça casse un lien social avec les librairies qui peuvent faire beaucoup de choses.
Évidemment.
Bon, je vous remercie à tous les deux et on se trouve en fait avec tous nos auditeurs la semaine prochaine à la même heure. Je vous dis portez-vous bien et à la prochaine.
Merci.
Merci beaucoup.
À bientôt.